Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour ce 24 février. Le budget de l'Europe qui est discuté, même très discuté, lors d'un sommet avec une absence de taille. Le Royaume-Uni, Brexit oblige. Échange de bons procédés et congratulations entre les États-Unis et l'Australie lors d'une visite, celle de Malcolm Turnbull, la visite à la Maison-Blanche. Et en France, c'est la gronde aux pages jaunes. 1000 emplois devaient être supprimés et 3/4 des agences fermées. Débute ce journal à Bruxelles, donc, et le premier sommet européen sans le Royaume-Uni, Brexit oblige. À l'ordre du jour, l'organisation des prochaines élections européennes, mais surtout le budget de l'Union pour les années à venir, et les négociations risquent d'être longues au vu des tensions palpables lors de ce sommet. Reportage Pierre Benazet.
Il n'y a pas eu entre les 27 de foire d'empoigne sur le budget et le président du Conseil européen, Donald Tusk, a même été jusqu'à annoncer, je cite, un accord pour moderniser le budget de l'Union. Il poursuit en affirmant que certains pays sont même prêts à augmenter le budget et c'est bien là que le bât blesse car on n'en est encore qu'au début de cette longue négociation puisque ce budget septennal ne sera en œuvre qu'à partir du 1er janvier 2021. Et cette négociation est mal partie car les pays qui préconisent une réduction du budget sont arc-boutés sur l'idée de faire des économies. Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark estiment que la modernisation est souhaitable et possible sans augmenter pour autant le budget. C'est donc une opposition frontale avec une majorité des 27 où se trouvent d'une part ceux qui, à l'Est, veulent continuer à bénéficier des aides et d'autre part ceux qui, comme l'Allemagne et la France, veulent que l'Europe soit ambitieuse. En même temps, entre ces deux groupes de pays-là, les tensions sont palpables à cause de la proposition, vivement défendue par la France, de conditionner le versement de certaines aides au respect des valeurs européennes et de l'état de droit, ainsi qu'à l'absence de dumping fiscal ou social.
Et c'était Pierre Benazet depuis Bruxelles pour RFI. À la une également, la Syrie et cette nouvelle tentative au siège des Nations Unies pour mettre en place une résolution sur une trêve humanitaire dans le pays, alors que dans certaines régions, les bombardements de l'armée gouvernementale continuent et continuent à faire de nombreuses victimes également. L'incertitude demeure sur la position de la Russie. Les explications de Daniel Valou.
Membre permanent du Conseil de sécurité et disposant à ce titre du droit de veto, la Russie a la possibilité de bloquer cette nouvelle résolution. Depuis le début du conflit syrien, elle a fait usage de ce droit à 11 reprises. À chaque fois, Moscou s'opposait à des résolutions jugées trop défavorables au régime syrien. Pour justifier cette attitude, la Russie avance plusieurs arguments. D'abord, dit-elle, les informations sur le drame humanitaire qui se joue dans la banlieue de Damas seraient déformées et amplifiées par l'opposition syrienne. Ensuite, Moscou affirme que ce sont les groupes rebelles de la banlieue de Damas qui bloquent l'accès de l'aide humanitaire. La Russie affirme également que ces groupes, qu'elle qualifie de terroristes, empêchent les civils de fuir la zone de combat. Enfin, Moscou reproche aux pays occidentaux de ne pas tenir compte des tirs d'artillerie visant la capitale syrienne depuis les zones contrôlées par la rébellion. Pour donner leur feu vert à une éventuelle résolution, les autorités russes affirment attendre des garanties sur l'application de la trêve. Pour l'heure, ces garanties ne sont pas réunies, expliquait hier soir à New York l'ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies.
Daniel Valo pour RFI. L'ambassade des États-Unis en Israël sera transférée à Tel Aviv, enfin de Tel Aviv à Jérusalem, pardon. Ce sera au mois de mai. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la diplomatie américaine. Mais le choix de la date fait polémique. Elle coïncide avec les 70e anniversaire de l'État d'Israël le 14 mai. Grégoire Pourtier.
14 mai, la date serait très symbolique et finalement, ce déménagement serait aussi essentiellement symbolique puisque dans un premier temps, il ne s'agirait évidemment pas d'un nouveau bâtiment avec toutes les fonctionnalités requises. En fait, l'ambassade s'installerait seulement dans les locaux du consulat américain à Jérusalem pour une sorte d'intérim avec la majorité des services qui demeureraient à Tel Aviv. Reste que tout va bien plus vite que prévu. Il y a quelques semaines, le vice-président Mike Pence avait ainsi annoncé devant le Parlement israélien que le déménagement aurait probablement lieu vers la fin de 2019. Surtout, ce calendrier express ne risque pas d'apaiser les tensions dans la région et plus généralement au sein de la communauté internationale. En décembre, à l'ONU, une très large majorité des pays avait voté contre la décision de Donald Trump. Par ailleurs, un milliardaire de Las Vegas se dit prêt à participer au financement de la construction d'un nouveau bâtiment dans la ville sainte. En début d'année, Donald Trump s'était énervé contre le milliard et quelques dépensés pour la nouvelle ambassade à Londres. Alors, un financement privé est-il envisageable pour Jérusalem? Ce serait inédit, mais l'administration américaine actuelle n'est pas à une transgression près.
Et c'était Grégoire Pourtier pour RFI. On écoute également l'avis de Jean-Paul Chagnolot. Il est professeur à l'université de Paris 1 en politique américaine. Pour lui, cette décision a du sens pour l'administration Trump à quelques mois des élections mi-mandat aux États-Unis.
Il y a une logique dans tout ça. À partir du moment où il s'est engagé à l'égard d'Israël, mais aussi vis-à-vis de son propre électorat, et en particulier l'électorat qu'on pourrait qualifier d'évangéliste, et ils sont des millions et des millions, c'est un peu le socle de l'électorat de Donald Trump, sont engagés à transférer l'ambassade à Jérusalem. Évidemment, ce moment un peu symbolique et fort d'un anniversaire de la naissance, 70e anniversaire, ça renforce encore cette ligne-là, c'est-à-dire cette idée que, vous voyez, nous soutenons Israël, nous allons jusqu'au bout, et ça va satisfaire et les Israéliens, et ça va satisfaire évidemment cet électorat. Donc je pense qu'il faut voir ça, comme on a vu d'ailleurs la décision annoncée de Trump de transférer l'ambassade comme une décision de politique intérieure, nous sommes encore, en partie en tout cas, et en partie importante sans doute, dans une décision de politique intérieure.
Et c'était Jean-Paul Chagnolot, donc professeur d'études politiques américaines à l'université de Paris 1. Donald Trump d'ailleurs qui a déclaré que les États-Unis devraient s'inspirer de la politique d'immigration de l'Australie, alors même que le Premier ministre Malcolm Turnbull est en visite à Washington. On écoute Donald Trump.
We want to do merit-based immigration also. And then we will. That really protects the interests of Australia and its people. It's the way to go. And you've been very successful with it here. We're working very hard to do the same. In that sense, we're going to hopefully follow in your footprints.
Et le président américain Donald Trump, de son côté, on lui renvoie l'ascenseur, l'Australie qui a été inspirée par les États-Unis en matière de taxes d'imposition. Le Malcolm Turnbull, qui a déclaré ça, il est donc d'après lui, l'Australie a besoin d'abaisser l'impôt sur les entreprises. On écoute le Premier ministre Malcolm Turnbull.
We have been inspired, I have to say, by your success in securing the passage of the tax reforms through the Congress. We have secured some tax reforms in terms of reducing company tax, but not as much as we need to do. We've got more work to do.
Le Premier ministre Malcolm Turnbull, réaction de l'opposition pour Tania Plibersek. Il est impensable de faire ce cadeau aux entreprises encore plus. On l'écoute.
Massively benefit very big businesses and the highest income earners at the expense of ordinary working people. Sadly, I think we're already on this path in Australia. We've got $65 billion worth of big business tax cuts. We've got $19 billion of tax cuts to people who are earning more than $180,000 a year over the same period as we're increasing taxes on low and middle income earners by $44 billion.
C'était Tania Plibersek de l'opposition fédérale. 13h09, retour sur la scène internationale maintenant, et la visite du Premier ministre canadien en Inde, ce qui s'est finalement plutôt bien terminé avec la rencontre avec son homologue indien Narendra Modi, une semaine tout de même après l'arrivée de Justin Trudeau sur le territoire indien. La visite a été entachée donc de controverses. En effet, l'Inde accuse Ottawa de soutenir la cause séparatiste sikh. Antoine Guignard.
La fameuse étreinte, marque de fabrique de Narendra Modi, a finalement eu lieu. Le Premier ministre indien a serré fort dans ses bras Justin Trudeau lors de la réunion officielle entre les deux chefs d'État à New Delhi vendredi. Survenu à la veille du départ du Premier ministre canadien prévu ce samedi, ce geste chaleureux n'a toutefois pas pu effacer une visite jugée ratée par l'ensemble de la presse. Les médias s'accordaient pour dire tout au long de la semaine que Justin Trudeau avait été snobé par M. Modi qui ne l'avait pas accueilli à l'aéroport samedi dernier. Cette réception glaciale serait liée au lien supposé du gouvernement Trudeau avec des militants de la cause séparatiste sikh. De nombreux membres de cette minorité religieuse indienne avaient pris les armes dans les années 80 afin de créer en vain un État indépendant de l'Inde. Le soutien à cette cause, aujourd'hui marginale, provient désormais essentiellement de la diaspora sikh du Canada. Justin Trudeau, à qui on a également reproché son attitude un brin orientaliste, compte plusieurs sikhs au sein de son gouvernement. Il a signé vendredi avec M. Modi 6 protocoles d'accord, après s'être entretenu avec le Premier ministre indien sur plusieurs sujets, dont la défense, le commerce et la coopération en matière d'énergie.
Et c'était Antoine Guignard à New Delhi pour RFI. Je vous en parlais en titre en France. Et la colère des salariés des pages jaunes. L'entreprise a été rachetée il y a quelques temps par un groupe qui s'appelle le groupe Solocal. Et ce dernier vieux supprimer 1000 postes sur les 4000 employés et fermer la majeure partie des agences locales. Reportage dans l'une de ces agences à Marseille, Stéphane Burga.
Il se rebaptise aujourd'hui Page Sombre. Stéphane a redessiné le logo de l'entreprise. Le smiley sur fond jaune laisse place à une grimace et une larme.
Ça pique. Ah ouais. Ça fait peur à tout le monde, évidemment. Il y a de la colère, il y a de l'émotion. Pour certains, on a 20 ans, 30 ans de présence dans cette entreprise. Donc forcément, c'est de la colère, bien sûr.
À terme, un emploi sur quatre supprimé et les trois quarts des agences fermées. Dans le cortège, beaucoup de voix, comme celle de Corinne, s'élèvent pour s'indigner.
La direction des couilles en or, les salariés dénouillent encore. C'est tout à fait le résumé aujourd'hui. L'entreprise gagne de l'argent et nous met dehors. C'est ça l'incompréhension.
Dans un contexte difficile de disparition progressive des bottins avec leurs pages publicitaires et surtout d'une concurrence féroce sur le net pour attirer les annonceurs, Page Jaune dégage pourtant des bénéfices, souligne le délégué syndical CFDT Mohamed Badbag.
On travaille aujourd'hui avec Google, on travaille avec Facebook. Page Jaune est une force extraordinaire en France. C'est une pipite de l'Internet en Europe. L'idée, c'est de ne pas se laisser faire parce qu'il y a du pognon, il y a des richesses, mais on souhaite qu'elles soient partagées.
La justification vient d'un endettement que le groupe a réussi à ramener autour de 400 millions d'euros en vendant des actions à ses créanciers. Une excuse dénonce les salariés qui prévoient de tous se retrouver pour une grande manifestation à Paris le 1er mars.
Et c'était Stéphane Burgat pour RFI. On reste d'ailleurs à Marseille pour un mot de sport, puisque c'est là où se jouait le match France-Italie dans le tournoi des Six Nations, c'est du rugby. Et après 11 mois sans victoire, eh bien le 15 de France a finalement gagné un match sur le score de 34 à 17. Coup d'œil météo, ou d'ailleurs on fera un retour sur le sport complet dans quelques instants. Pardon. Coup d'œil météo pour cet après-midi. À Perth, il fera 32 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 29 degrés, Hobart 21, Canberra 22, Sydney 33, Brisbane 27, Cairns 30 et Darwin 32 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le budget de l'Europe qui est discuté à Bruxelles dans un sommet avec une absence de taille, celle du Royaume-Uni à cause du Brexit. Échange de bons procédés entre les États-Unis et l'Australie, on l'a entendu avec la visite de Malcolm Turnbull à la Maison-Blanche. Et en France, on vient de l'entendre, c'est la gronde aux pages jaunes. 1000 emplois devraient être fermés et trois quarts des agences fermées.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench